Lors d'un confinement, les violences intrafamiliales s'accentuent, notamment les violences des adultes sur les enfants. Nous avons interrogé Solène, éducatrice pour une association d'accompagnement des enfants suivis par le service de l'aide sociale à l'enfance, en collaboration avec les MDS, maisons du département Solidarité, les juges pour enfants et les lieux d'accueil. Nous la questionnons sur son travail pour comprendre les raisons de l'accentuation des violences et voir quelles sont les possibilités d'action des professionnels en ces temps de confinement.
Alors moi, je suis éducatrice dans un service de placement à domicile, donc il dispose de deux dispositifs. Le premier, c'est le dispositif de maintien à domicile. Donc ça, c'est quand les enfants ne sont pas encore connus de placement en institution ou en famille d'accueil. Et le deuxième, c'est le dispositif d'accompagnement de retour en famille qui s'appelle DARF. Et ça, c'est quand les enfants ils ont connu un placement en institution ou en famille d'accueil. Alors, on intervient très régulièrement à la demande du juge des enfants, mais ça peut être aussi à la demande de la MDS dans le cadre de mesures administratives, mais c'est vraiment plutôt rare. Donc nous, on doit rendre des comptes, que ce soit à l'MDS ou au niveau du juge des enfants, sachant qu'on a des mesures, on intervient pour une durée de 6 mois et ça peut être renouvelable qu'une fois. Donc au grand maximum, on est chez la famille un an. Nos mesures, elles se déroulent comme telles. On intervient une, deux ou trois fois par semaine au domicile. En fait, on doit faire trois actions. Donc, ça peut être deux visites et un travail en partenariat. Ça peut être ce genre de choses. Donc, nous, on doit veiller à la sécurité de l'enfant, de l'entente en famille. On doit veiller à ce que tout le monde s'entend bien, à ce qu'il n'y ait pas de violence, que ce soit de la violence physique, que ce soit de la violence psychique, que l'enfant ne se met pas en danger, qu'il ne soit pas dans des consommations, ce genre de choses. Et du coup, on intervient à la fois à la maison, mais on travaille aussi beaucoup en partenariat, que ce soit avec les établissements scolaires, avec les CMPP, donc avec tout ce qui est pour les suivis psychologiques. Des fois, ça peut être avec les centres sociaux, ça peut être avec les missions locales. On a vraiment un vaste travail en partenariat. Dans le cadre de nos dispositifs, on a un service d'astreinte. Donc en fait, l'association qui a un dispositif de placement à domicile est obligée d'avoir un service d'astreinte. Après, chaque association, parce qu'il faut savoir que c'est des associations qui gèrent tout ce qui est les mesures comme ça, chaque association est libre de gérer son astreinte comme elle le veut. Donc chez nous, c'est une astreinte à un éducateur qui, pendant du vendredi au vendredi, est d'astreinte le soir et les week-ends. Et on doit intervenir en cas de gros soucis. Lors de ces placements à domicile, on a la possibilité de, sans forcément tout de suite le demander au juge, d'extraire le jeune de la famille en cas de grosses difficultés et de le mettre dans une structure. Au sein des structures de notre association, il y a des places réservées pour les jeunes en placement à domicile. Et du coup, on est amené à, en cas d'urgence, en cas de danger ou en cas de gros conflit, à mettre le jeune dans cette structure. Et dans les deux semaines qui suivent, on refait une rencontre tous ensemble, donc avec tous les acteurs, donc avec le chef de service, l'éducateur, la famille, le jeune, la chef de service de la MDS, pour décider si le jeune peut retourner en famille, sous quelles conditions, ou si il faut penser au placement.
Avec le confinement, comment ça se passe pour toi désormais ?
Là, actuellement, avec le confinement, bon, c'est assez particulier, hein, c'est une situation inédite, et du coup, on s'adapte un peu comme on peut. Les premières semaines, on a dû aller en renfort sur les structures de l'association. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup d'arrêts maladie pour des éducs qui ne se sentaient pas bien ou pour des gardes d'enfants. Et du coup, dans notre association, il y a des foyers, donc des foyers qui dépendent de l'ASE, hein, de l'aide sociale à l'enfance, avec des ados qui étaient du coup en manque d'éducateurs. Il faut forcément les faire tourner, ces foyers, les jeunes restent là. Et donc du coup, on est venu les premières semaines pallier au manque d'éducateurs dans les structures. Donc on a un peu changé de service les premières semaines. Là, il y a des recrutements qui se sont faits. Donc là, désormais, on travaille en télétravail. Donc de chez nous, on appelle les familles, on gère par téléphone, on contacte les partenaires et on fait nos écrits. Donc là, effectivement, en ce moment, on contacte plus physiquement les familles, on les a au téléphone, que ce soit les jeunes ou les parents. Donc c'est un petit peu compliqué, mais de toute façon, on n'a pas trop le choix, on ne peut plus aller en famille. Là, on a une interdiction. Donc là, on gère vraiment à distance.
Quelles ont été les consignes données par le gouvernement aux structures sociales comme celle pour laquelle tu travailles ?
Alors, quelles ont été les consignes données par l'État concernant les structures dans lesquelles on travaille ? Je ne suis pas au courant de tout, je ne suis pas chef de service. On a eu certaines informations qui nous ont été relayées. Mais il faut savoir que, en tout cas, dans le monde des sociales, on trouve qu'on a un peu les oubliés. On trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui a été mis en place. Pour ça, on travaille avec de l'humain. On travaille avec, nous particulièrement avec des enfants, mais il y en a qui travaillent avec des toxicomanes, il y en a qui travaillent avec des SDF, il y en a qui travaillent avec des femmes battues, il y en a qui travaillent avec des personnes handicapées. Et on trouve qu'on parle pas de nous. Et du coup, qu'il n'y a pas forcément de disposition mise en place. En tout cas, nous, aujourd'hui, à part avoir élargi le mode de garde aux travailleurs du social, c'est-à-dire que maintenant les éducateurs peuvent plus prendre l'arrêt pour leurs enfants puisque normalement il y a des écoles ou des crèches qui sont mises à disposition. J'ai pas eu écho forcément de choses que l'État met en place pour nos dispositifs. Alors peut-être qu'il y en a, mais en tout cas j'en ai pas eu écho. Ce qui a été fait, c'est par exemple pour éviter les violences familiales, ils ont mis en place un numéro. Donc le 114, ou la femme ou l'homme battu, hein, parce que les hommes battus, ça existe aussi, peuvent envoyer un SMS. Mais sinon, je vous avoue que j'ai pas trop eu écho de choses qui ont été faites par l'État. On a vraiment le sentiment d'être un peu oublié, quoi.
Y a-t-il un risque d'accentuation des violences intrafamiliales sur les enfants avec le confinement ?
Alors concernant les violences familiales dans le cas du confinement, est-ce qu'il y a un risque à ce que ça s'accentue ? Forcément. Comme il y a un risque quand ça s'accentue pendant les grandes vacances, parce que les enfants restent au domicile, la femme reste au domicile, l'homme reste au domicile, donc forcément que ça va s'accentuer. Des chiffres, on n'en a pas, hein. On n'en a pas. Pourquoi ? Parce que c'est secret. Faut pas oublier que oui, il y a de la violence dans certaines familles qu'on accompagne, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, à mon goût, de familles où il y a de la violence et qui sont pas suivies par les travailleurs sociaux. Je le dis souvent, hein, on n'est pas magicien, on ne peut pas savoir derrière une porte qu'il y a de la violence, et du coup si personne dénonce, si les voisins ne dénoncent pas, si les professeurs ne dénoncent pas, si les médecins ne dénoncent pas, à aucun moment les travailleurs sociaux ils vont arriver dans cette famille. Donc de la violence, c'est certain qu'ils vont en avoir plus, hein, déjà en temps normal, je pense qu'une famille où il n'y a pas de violence, ça peut être fatigant le confinement, d'être H24 dessus, les uns sur les autres. Souvent les familles précaires, ils ont des petits logements, c'est pas évident, il y a des enfants qui... Il y en a des familles, moi j'ai une famille où ils vivent à 7 avec 2 chambres, donc là en confinement j'imagine qu'ils sont les uns sur les autres. Mais il faut vraiment pas oublier que oui, il y a de la violence dans les familles qu'on suit, mais il y a malheureusement aussi beaucoup de violence dans des familles qu'on ne suit pas, qui passent à l'as auprès des services sociaux. Puisque s'il y a, au bout d'un moment, il n'y a aucun signalement qui est fait, les services sociaux ne peuvent pas aller dans la famille. C'est pour ça qu'il est très important, si on est témoin de violence familiale envers les enfants, peu importe où, il faut appeler le 119. Il faut savoir que vaut mieux le faire pour rien. Si on entend des cris, ce genre de choses, vaut mieux vraiment le faire. L'éducateur ira, il y aura une évaluation qui sera faite. Elle sera positive ou elle sera négative. En fonction de ça, il y aura peut-être un éducateur qui entamera un suivi. Mais il faut vraiment pas hésiter, parce que là, les familles qui sont isolées, les enfants peuvent pas aller à l'école raconter ce qui se passe, peuvent pas voir leurs camarades raconter ce qui se passe. Et du coup, s'il y a des enfants qui sont battus, et ben ils sont H24 avec des parents violents. S'il y a des femmes ou des maris battus, pareil, ils ont pas la possibilité, j'ai une bêtise, mais par exemple en ramenant l'enfant à l'école à discuter avec d'autres parents pour expliquer que c'est difficile à la maison, ils sont vraiment tous confinés ensemble. Souvent c'est des gens qui ont très peu de ressources extérieures, hein. Donc c'est, oui, ça va accentuer, et bon, on l'a vu, hein, il y a eu un drame à Carvin il y a pas longtemps, où le conjoint d'une femme a tué la femme et a tué deux de ses enfants. C'est alors, est-ce qu'il aurait eu lieu sans le confinement ? Peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un drame, et j'espère qu'il y en aura le moins possible. C'est quelque chose qui nous inquiète, hein. On a certaines situations où ça nous inquiète. Quand on en discute avec nos collègues, encore une fois, on se dit que on est un peu démunis parce qu'on sait pas quoi faire. On sait que c'est un risque, mais en même temps... qu'est-ce qu'on fait ? Donc si on sait que le risque est avéré, bien entendu, on va aller chercher les enfants, on va les mettre en structure. Mais en même temps, on les a qu'au téléphone. Donc l'enfant peut très bien nous dire ce qu'il veut au téléphone. Les parents, ils peuvent très bien nous dire ce qu'ils veulent au téléphone. On n'est pas là pour vérifier, hein. On n'est pas là physiquement. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Donc concernant les jeunes qu'on suit, si on est au courant qu'il y a de la violence, comme j'ai pu l'expliquer avant, on prend le jeune, on le met en structure. Ça, on a vraiment la possibilité dans le cadre de dispositifs de placement à domicile, et c'est vraiment ça qui est assez important de savoir, c'est que si on sait qu'il y a de la violence, on a vraiment la possibilité d'aller chercher le jeune, même en période de confinement, hein, le chef nous laissera le faire, aller chercher le jeune et le mettre en structure, donc le mettre en sécurité. Après, il faut qu'on soit au courant. Encore une fois, quand on appelle les jeunes, peut-être que les familles sont derrière en train d'écouter ce qu'ils disent, on ne sait pas. Les jeunes ne disent pas tout, les familles ne disent pas tout, hein. Donc oui, si ça avérait, on peut les protéger, mais On n'est jamais sûr de rien. Et d'ailleurs, même quand on y va, hein, quand on y va, la famille, elle nous montre ce qu'elle veut. Hein. On reste quelques heures au domicile par semaine. Le reste du temps, on n'y est pas. On ne peut pas savoir ce qui s'y passe. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de transparence, je parlais de collaboration. Il y a eu des drames hein, qui sont arrivés alors qu'il y a des travailleurs sociaux. Sauf que les travailleurs sociaux qui vont au domicile, eh ben, on n'y vit pas tout le temps. On n'est pas des petites souris. On n'installe pas des caméras. Et du coup, on a des formations, hein, mais on ne peut pas tout voir non plus. Donc encore une fois, je le répète, il est vraiment très important que si vous êtes témoin de cris, de violences, les professeurs, si vous voyez des bleus sur les enfants, il faut appeler le 119. Vous pouvez le faire anonymement, c'est très important. Les médecins, pareil. Et puis tous les citoyens, de toute façon, on est en France, on est dans l'obligation hein, de faire ce genre de choses. Parce qu'il faut savoir que s'il y a un décès, on peut être poursuivi pour non-assistance en personne en danger. C'est notre devoir en tant que citoyen de prévenir si on estime qu'il y a des personnes qui sont en danger.